Toujours à propos de la phase d'exécution du contrat, nous abordons la question de la force majeure. Et je suis pour cela avec Maurice Bensadoun.
Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour, cher Maurice. Alors, cette question de force majeure, elle est importante parce que le contrat, eh bien, il faut l'exécuter. On a fait un contrat, on est maintenant tenu de l'exécuter. Le contrat est la loi des parties, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, si on se trouve confronté à un cas de force majeure, eh bien, il va y avoir des conséquences. On va soulager le débiteur, on va voir dans quelle mesure. Et il faut préciser que nous avons maintenant une définition de la force majeure qui est donnée par le Code civil dans la version qui résulte de l'ordonnance du 10 février 2016. Précédemment, on nous disait de manière incidente, c'était l'article 1148 du Code civil, il n'y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit. Donc désormais, nous avons un article 1218 que nous regardons qui va définir comme la force majeure en matière contractuelle. Eh bien, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Donc voilà les différentes conditions de la force majeure contractuelle. Alors est-ce qu'on a encore la condition d'extériorité pas véritablement parce qu'on nous parle d'un événement échappant au contrôle du débiteur, mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand même que l'extériorité. Cher Maurice, qu'en pensez-vous?
Alors oui, là on est dans le domaine, en tous les cas, des préférés ou importants des juristes d'entreprise dans l'exécution du contrat. Sur le point que vous soulevez, la disparition de la condition d'extranéité, je crois que c'est un arrêt de la Cour de cassation de l'Assemblée plénière 2006. Mmh. En fait, pour moi, est un symbole de la convergence des jurisprudences de common law et de droit civil, si vous voulez, parce qu'il reste deux éléments finalement, dans les trois I qu'on a appris dans notre jeune temps, si je me souviens bien, c'est le caractère imprévisible, irrésistible, pardon, et insurmontable. Voilà. En fait, et donc là, ça montre bien que dans ces périodes de mondialisation ou de globalisation, il y a une convergence des solutions juridiques. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une clarification.
D'accord, donc on a une définition en plus, alors définition particulière, parce qu'on nous dit que c'est une définition en matière contractuelle. Alors, est-ce qu'on aura une définition en matière délictuelle? On sait qu'on attend une réforme de la responsabilité dans son ensemble. Alors, est-ce qu'on reviendra sur cette définition? Est-ce qu'il y aura une définition propre à la responsabilité délictuelle ou est-ce qu'il y aura une nouvelle définition globale? Bon, l'avenir nous le dira. Sur donc le contenu de la force majeure, c'est ce que dit le premier alinéa de l'article 1218. Et alors, ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe en cas de force majeure. On nous dit que si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Donc ça, c'est ce que nous dit le début du deuxième alinéa de l'article 1218. Et le troisième alinéa nous dit que si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Alors là, il y a des choses extrêmement importantes dans les trois paragraphes que vous avez lus. Que je propose de reprendre assez rapidement.
D'accord. Vous voulez qu'on revienne avec
oui,
le texte?
Oui, si vous voulez.
Donc on va reprendre...
Dans la définition de l'événement, beyond the control, comme on dit en anglais, si vous voulez, donc là, c'est clair. Un point qui est important, la force majeure, c'est l'arme du débiteur, c'est écrit. Et pas, au plan juridique en tout cas, dans le texte de loi, celle du créancier. Comme la clause est supplétive, très souvent, on a des clauses réciproques, ce qui, à mon avis, ayant toujours travaillé avec les fournisseurs, il faut éviter. L'arme du créancier, du client en espèce, c'est la suspension, qui va produire d'autres conséquences, on le verra ensuite. Ensuite, il y a un point important, c'est le standard, comme on dit en américain, le critère du « reasonableness ». Vous avez vu maintenant qui ne pouvait être raisonnablement prévu. Alors on a la personne raisonnable dans le code maintenant, etc. Est-ce que c'est les mêmes critères, si vous voulez, qu'on appliquera dans le droit anglo-saxon? C'est aussi une question. Un point sur lequel nous avons eu satisfaction dans nos remarques, dans le texte du projet d'ordonnance, il était dit, si vous voulez, que la force majeure empêchait l'exécution du contrat. C'est un contresens juridique. Elle empêche l'exécution de l'obligation qui est affectée par la force majeure. Ça a été corrigé. Et bien évidemment, et c'est tout le contraire, vous avez l'obligation de continuer à exécuter les autres obligations qui ne sont pas affectées. Si vous ne le faisiez pas, vous êtes en situation de faute contractuelle. Donc ça a été corrigé dans le premier point. Ensuite, alors, si empêchement est temporaire, là, c'est un effort louable qui a été fait, mis à part que nous, praticiens, si vous voulez, on prenait la peine de rédiger et de négocier, souvent dans des clauses assez longues, si vous voulez, les différentes conséquences. Et vous avez différents scénarios, parce qu'on pense que ce n'est pas le juge qui va régler ça aussi. Vous pouvez avoir un cas de force majeure qui dure 2 ou 3 jours. Entre parenthèses, il faut aussi inclure la force majeure chez les sous-traitants. D'accord ? Donc ça, c'est un truc tout simple en termes de rédaction. Quand vous définissez le fournisseur, vous dites pour les besoins de la clause, ça inclut les sous-traitants. Et tout le monde est couvert. Bon. Donc vous pouvez avoir un cas de force majeure de 2-3 jours, de durée de 3 jours, mais qui peut avoir des conséquences de 6 mois ou 1 an. Alors, ce n'est pas des événements naturels, ce n'est pas un incendie d'une usine, ce n'est pas tout ce que on peut imaginer. Inversement, on pouvait avoir un cas de force majeure qui dure 6 mois et auquel vous allez pouvoir remédier en 3 jours. Bon, ça c'est le premier point. Et je parle surtout au niveau des contrats internationaux. On voit d'ailleurs en anglais l'expression force majeure, mais aussi extension of time. Excusable delay qui est plus l'exception d'une exécution, comme on l'a vu dans une autre vidéo.
Je vous laisse continuer, mais est-ce qu'on pourrait contractualiser d'ailleurs la force majeure?
Oui, on peut. Alors moi, personnellement, je suis un tenant des rédactions à la clause anglo-saxonne, c'est-à-dire américaine, les phrases à la Proust, including but not limited to. Alors vous en avez 3 pages, d'accord? Généralement, quand il arrive un événement, il n'a pas été prévu, mais le principe étant, ça c'est très important. Et vous savez que jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, à part l'article, c'était 1048, il n'y avait pas de définition, j'allais dire,
1148, oui.
1148, il y avait la jurisprudence, mais là, c'était mai 68, ou la grève des transporteurs de 1995. Entre parenthèses, et pour les Américains, je l'ai vécu dans un gros contrat avec General Electric, la grève étant un mode normal de fonctionnement en France, ils refusaient que ce soit considéré comme force majeure. Je vais faire la parenthèse. Les conséquences de la force majeure sont très importantes. Il vaut mieux, si vous voulez, les rédiger, les négocier à froid que le jour où ça arrive. Alors, je m'explique. Vous avez un cas de force majeure qui dure X jours, d'accord? Normalement, en termes de conséquences, ce n'est pas à l'autre partie à payer les conséquences. Puisque par définition, il est pour rien. D'accord? Alors, dans les contrats, si vous voulez, les contrats d'installation et les contrats de construction à l'étranger, vous n'allez pas ouvrir et fermer le chantier, démobilisation, comme on dit en anglais, pour oui, pour non. Donc là, il faut négocier contractuellement le fait qu'on vous paye les surcoûts pendant le temps de force majeure. Au bout d'un certain temps de force majeure, vous ouvrez vers la suspension du contrat. Bien, la suspension du contrat, alors là, le client va payer les surcoûts parce qu'on tient à aller au projet en espérant qu'il y aura, c'est ce que, effectivement, l'empêchement temporaire. Mais temporaire, il faut définir la durée. Et donc, on est indemnisé, là, au titre des coûts. Et les coûts, y compris chez les sous-traitants, etc., etc. Tout ça, il faut l'écrire. Et enfin, au bout d'un certain temps de suspension, parce qu'on ne peut pas maintenir des gens sur des chantiers pendant 2 ans, 3 ans, comme ça, là, vous ouvrez vers la résiliation.
D'accord, si l'empêchement est définitif, effectivement.
Voilà. Là, vous avez la résiliation. Et alors, là aussi, il faut prévoir toutes les conséquences, l'indemnisation des coûts et... Alors, notamment ça, c'est discuté dans l'arbitrage international, est-ce qu'il y a une indemnisation pour perte de marge? Parce qu'après tout, ce n'est pas votre faute. Ouais. Voilà, tout ça, alors il y a cette espèce-là...
Résiliation ou résolution, d'ailleurs, le texte
oui, la résolution. Oui, alors, parce que pour nous, quand on retourne pas en arrière, c'est plutôt la résiliation. C'est un peu l'inspiration qu'on a dans les conditions physiques, si vous voulez, la Fédération des ingénieurs conseils. Ainsi, voilà. Donc, vous voyez, on est quand même loin des choses, et surtout, on pense que les parties sont les mieux placées pour négocier ça à froid plutôt d'aller régler ça devant le juge, ou donner au juge le pouvoir de suspendre le contrat, qui peut sembler quelque chose d'assez exorbitant, si vous voulez, et a fortiori de le résilier.
D'accord, donc des clauses pourraient définir la force majeure, ou pourraient même prévoir qu'on est tenu, en toute hypothèse, de fournir sa prestation. On pourrait donc contractualiser à la fois, oui, la force majeure et l'obligation. On peut s'engager à fournir sa prestation, même en cas de force majeure.
Oui, là, bon, il vaut mieux changer de juriste ou d'avocat, si vous disiez ça, mais la clause est supplétive, vous avez raison.
D'accord, oui, voilà, c'est ce que j'entendais, effectivement, on ne nous dit pas que c'est une définition d'ordre public.
Ah non,
voilà,
c'est absolument.
Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de cette question de la force majeure. Je vous remercie, cher Maurice.
Merci, monsieur le professeur.